Bonjour, c'est Radio WNO et l'histoire de la Slovaquie continue de notre radio. Et aujourd'hui, on accueille Armand, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est Armand.
Et en fait, il n'est pas slovaque, mais quand même, on va poser beaucoup de questions sur la Slovaquie. Donc aujourd'hui, dans notre studio, on est avec Anna. Bonjour Anna.
Bonjour tout le monde.
Et aujourd'hui, Anna va être animatrice de notre émission et Arnaud, que je déjà présente, et moi, Elena. Donc, c'est parti.
Alors, Arnaud, dis-nous tout d'abord qui es-tu, pourquoi tu es ici et qu'est-ce que tu fais dans ta vie en général?
Qui je suis, c'est compliqué à répondre, ça. Je suis quelqu'un, en ce moment, je pense que je peux dire que je suis quelqu'un qui prépare un
quelque
gros
chose,
voyage.
Peut-être. Tu es quelqu'un qui fait quelque chose ?
Je suis quelqu'un qui fait quelque chose. Et en ce moment, ce quelque chose, c'est entreprendre un grand voyage. Enfin, un grand voyage, ce que tu appelles un grand voyage. Et du coup, ce que je fais ici exactement, en fait, je suis en train de... je vais en Slovaquie en autostop. Et du coup, Mulhouse était sur mon chemin. Et du coup, je m'arrête sur Mulhouse pour... voilà.
Et tu as parlé de grand voyage. C'est pour combien de temps, quel pays, ou c'est par hasard, ou tu as déjà le plan, à quoi ça ressemble le voyage?
Alors oui, j'ai un plan de mon voyage. Le temps, je ne sais pas. Ça va être en fonction de combien de temps ça va prendre. Je n'ai pas un objectif de temps, mais plus un objectif de réalisation, de choses à voir. Et l'idée, c'est d'aller en Slovaquie et de fabriquer un petit bateau pour naviguer sur le Danube et après d'aller jusqu'en Turquie.
Ah, c'est cool l'idée, c'est cool le projet. Comment reçu cette idée? Qu'est-ce que tu as inspiré pour faire ce voyage?
Bah en fait, déjà depuis tout petit, j'ai toujours voulu voyager dans d'autres pays et j'ai jamais eu l'occasion de le faire, donc ça a toujours été en moi. Et je voulais trouver une manière de... pas juste d'aller dans une ville, aller voir l'église et aller dans une ville. Je voulais un peu rencontrer des gens, avoir un projet et avoir un petit challenge. Et je savais pas forcément quoi, mais en fait, vu que j'habitais à Orléans, j'étais couvreur. Et ça ne me plaisait pas forcément tout le temps, ce travail. Et du coup, le soir, j'allais me balader le long de la Loire. Et ça m'apaisait. Je marchais le long de la Loire. Il y avait plein d'animaux. J'étais le long de la rivière. Et du coup, je me disais tout le temps, mais en fait, j'ai envie de partir. J'ai envie de fabriquer un canoë, de partir sur la Loire comme ça. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser aux fleuves en Europe. J'ai vu qu'il y avait le Rhin qui traversait une partie qui était un long fleuve, pareil, sur le Danube, qui traverse toute... j'ai découvert qu'en fait, en fleuve, tu pouvais traverser toute l'Europe. Et du coup, ça m'a un peu fasciné. Et je me suis dit que j'allais faire ça, j'allais construire une embarcation et que j'allais traverser sur un fleuve.
Et tu as dit que ton boulot était couvreur, c'est ça?
Oui, j'étais couvreur.
Ouais, et c'était quoi? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que moi, j'ai aucune idée. C'est quoi ça?
Moi non plus.
Ah d'accord, ok. Mais couvreur, c'est ceux qui font les toits des maisons. Il y a les charpentiers, je pense qu'on connaît mieux, qui font la structure en bois. Et puis les couvreurs, ils viennent mettre les tuiles, le zinc, la couverture par-dessus.
Et pourquoi tu as choisi spécialement la Slovaquie pour déménager, pour faire ton voyage?
En fait, j'ai pas vraiment choisi la Slovaquie. En fait, à vrai dire, ce voyage-là, j'ai déjà commencé il y a un moment. J'ai commencé il y a 5 mois. Et j'ai juste suivi le Danube. Donc, je faisais de l'autostop en suivant les villes qui étaient le long du Danube. Et je me dis, je vais parler aux gens. Je vais dire que j'ai envie de construire un bateau et que je cherche des gens qui peuvent m'aider, qui peuvent me prêter un atelier. Et du coup, je me suis retrouvé à aller jusqu'en Slovaquie. Et puis là, j'ai fini par rencontrer quelqu'un qui me dit hey, mais je connais des gens qui ont ce bateau. Tu peux peut-être qu'ils peuvent t'aider. Et effectivement, là, ils sont en train de m'aider.
J'ai oublié mon question que je voulais poser, mais c'est pas grave. Slovaquie, c'est ton première fois pour voyager à l'Europe de l'Est?
Ouais, complètement.
Et quelle est ta première impression de ça?
Alors, quand je suis allé en Slovaquie, j'ai traversé l'Allemagne, l'Autriche, puis après je suis arrivé en Slovaquie. L'Allemagne et l'Autriche, j'ai bien aimé, mais j'ai moins rencontré de gens, j'ai passé moins de temps. Mais quand je suis arrivé en Slovaquie, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai vite rencontré beaucoup de gens, en fait. Et j'ai trouvé ça peut-être plus facile de rencontrer les gens. C'était plus simple.
Et tu vois des différences entre la mentalité de l'Est et la mentalité de l'Ouest? Tu as remarqué quelques différences? Combien de temps tu habites déjà en Slovaquie? Je ne sais pas, on n'a pas déjà dit.
Alors, j'ai habité deux mois et demi, je crois.
Deux mois et demi. Mm-hmm. Et tu as remarqué certaines différences?
Peut-être la langue officielle.
Ah bah ouais, il y a une petite différence de langue, ouais, forcément. Ouais, mais ça, la langue, c'est... Ouais. Ouais, sur la langue, c'est marrant. J'ai réalisé les gens qui ont un certain âge, ils apprenaient le russe à l'école et j'avais, moi je suis jeune, mais j'avais zappé cette étape de l'Europe où il y avait plein de pays qui étaient dans l'Union soviétique. Et je trouve ça marrant je vais dans l'Est, je me dis, ah mais oui, c'est vrai que ça, c'était il y a pas longtemps. Et oui, ça, et de voir que ça a un impact réel, les gens, on n'a pas appris la même langue à l'école, du coup c'est plus compliqué de parler. Donc ouais, ça m'a marqué, ça.
Et tu parles quelle langue?
Moi je parle anglais. Mm-hmm. Je commence à apprendre quelques mots en slovaque et je vais essayer de prendre des cours un peu.
Et tu peux dire des mots que tu as appris?
Dobrý den, dobrý večer, dobrú noc.
C'est beau.
Ce genre de choses.
J'ai encore oublié mon question. Est-ce que vous pouvez... par rapport à la langue, est-ce que la langue anglaise, c'est la langue répandue en Slovaquie? C'est facile pour toi pour trouver des gens qui parlent anglais ou pas?
Je trouve des gens qui parlent anglais. Après, pas tout le monde. Je peux pas comparer avec la France parce que j'essaie pas de parler anglais en France. J'en trouve, mais pas tout le monde. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de gens qui parlaient allemand. Alors, je connais quelques mots en allemand, du coup, des fois, j'essaie de broder autour de l'allemand. En général, ceux qui vont avoir en dessous de 30 ans, ils vont parler anglais. Et au-dessus, ça va être plus compliqué, pas forcément.
Et par rapport, peut-être, on a déjà te demandé la mentalité. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas ou pour toi, c'est un petit peu étrange dans la... Je sais
choc
pas,
culturel là.
Oui, quelque chose comme ça.
Des chocs culturels, pas spécialement, en vrai, non. Alors moi, il y a un truc que j'ai trouvé étrange, c'est qu'en Slovaquie, moi, quand j'ai rencontré des gens qui vont avoir en tout 30 ans, ils étaient, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de mouvements alternatifs, et ils m'ont tous dit ils étaient très pessimistes sur leur pays. Ils disaient tous, une mauvaise mentalité, on n'est pas ouvert. Mais j'ai trouvé plein au niveau de la jeunesse slovaque, j'ai trouvé plein de mouvements alternatifs. Du coup, c'est marrant. Alors, je sais pas s'il y a un gap entre les générations ou quoi, mais je parlais de ça.
Et c'est facile pour toi de trouver des amis en Slovaquie? Est-ce que des gens sont ouverte vers des étrangers? Est-ce qu'ils te acceptent à, je sais pas, aller avec eux quelque part, faire des voyages ou je sais pas, d'autres activités? Est-ce que c'est facile de trouver quelqu'un qui est comme des amis en Slovaquie?
Des amis, moi je suis parti dans l'idée de rencontrer des gens, donc forcément je finis par trouver des gens que j'ai rencontrés. J'ai fait du woofing en Slovaquie.
De quoi?
Alors, du woofing.
Oui, je sais.
Alors, on connaît.
C'est le travail à la ferme.
Oui, l'idée du woofing. Alors, c'est une application, c'est via Internet. Mm-hmm. Et puis, l'idée, c'est d'aller rencontrer des fermiers et puis passer du temps avec eux. Je crois qu'il y a une idée de 4 heures par jour, quelque chose comme ça, mm-hmm. pour les aider dans leur projet. Et puis, en échange, ils t'hébergent, ils te nourrissent. Et puis toi, tu es en Slovaquie, tu es avec des locaux. Et, Et du coup, ça, moi, j'ai fait ça. Enfin, j'ai cherché quand même à rencontrer des gens. Et du coup, bah, j'ai fini par rencontrer des gens avec qui j'ai passé du temps et qui sont devenus des amis.
Et moi, j'ai une question par rapport à l'argent, parce que c'est toujours très intéressant, je pense. Ça veut dire que tu as quitté ton travail, tu ne travailles plus.
Ouais.
Et tu as, je sais pas, tu as collecté, tu as gardé beaucoup d'argent pour réaliser ton projet ?
J'ai collecté un petit peu d'argent. Je sais pas si c'est beaucoup. Je pense pas tant que ça, mais je...
Combien ?
Vous voulez des chiffres ? Mais... J'ai le droit de dire des chiffres ?
Non, pas spécialement.
Si tu ne le vas pas, ça.
Mais je peux,
non,
hein,
te force pas. Si tu veux, justement, si tu veux.
Non, je suis parti, je crois que j'avais 6 000 euros. 6 000 euros. Et je ne dépense pas tant argent que ça, finalement.
Tu as loué l'appartement en Slovaquie, c'est ça ?
Alors là, j'ai retourné en Slovaquie et là, je vais avoir un appartement parce que. Avant, j'étais plus dans la recherche, la rencontre des gens, donc je bougeais beaucoup, j'allais dans des hostels, j'allais chez des gens, je fais du woofing. Et là, vu que je vais me mettre complètement à faire la construction, je vais être à un endroit fixe et là, j'ai loué un appartement.
Et tu habites à quelle ville je pense qu'on n'a pas encore mentionné.
À Banská Bystrica.
Ah.
Donc c'est en plein milieu de la Slovaquie. À côté de Zvolen. Voilà,
c'est bon, Joanne.
Oui, et c'est une très belle ville. C'est marrant parce qu'il y a. Alors, je ne sais pas si c'est un carillon ou quoi, mais il y a une espèce de clocher au milieu de la ville. Et je pense que toutes les heures, quelque chose comme ça, il y a une petite musique qui se fait retentir. Du coup, c'est marrant, il y a un espèce de jingle dans la ville.
Ah, c'est cool. Je n'étais jamais là-bas parce que j'étais qu'à Bratislava.
Oui.
À la Tatry, montagne, mais ouais. Est-ce que tu voyages aussi autour de Slovaquie? Est-ce que tu as visité des endroits intéressants? Quelque chose que tu recommanderas aux gens qui voyagent en Slovaquie, peut-être?
Moi, alors, je suis resté beaucoup dans les villes, dans le centre, mais j'ai beaucoup aimé. La nature est trop, trop belle. Donc ouais, faut aller dans la nature en Slovaquie. Hein. Je pense que c'est le plus intéressant. Il y a des, moi je suis pas allé dans les Tatras, mais même sans aller dans les Tatras, je suis sur des petites montagnes, c'est super beau. Ouais, la nature. Et ils ont des thermes aussi. Faut aller dans les thermes.
Ah ouais, c'est vrai.
Et moi j'ai une question plus technique, je peux dire. Ça veut dire que ok, tu as décidé de construire le bateau, mais il faut trouver des, je sais pas, du bois, des choses, des je ne sais pas comment ça s'appelle. Où tu l'as trouvé, où tu l'as acheté ça, où tu as trouvé des gens qui ont déjà fait ça et comment ça...
Ok, mais c'est un vrai sujet ça. Parce que ouais, c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Et alors en fait, moi, je n'ai jamais construit de bateau, donc j'ai un peu travaillé dans le bâtiment. Mais du coup, je fais un peu tout. J'ai regardé beaucoup de vidéos de YouTube, donc j'ai fini par trouver des groupes sur Internet de gens, des amateurs qui construisent des bateaux. Donc je me renseigne un peu comme ça sur la marche à suivre. Les matériaux, c'était quelque chose de compliqué au début. Au départ, je pensais construire mon bateau dans la ferme où je travaillais. Mais en fait, c'est pas possible parce que la personne voulait m'offrir un atelier, mais en extérieur. C'était l'hiver. Et moi, j'ai des cols, des résines à utiliser, qui c'est pas possible avec la chaleur. Et du coup, ça n'a pas été possible. Mais du coup, au début, j'ai fait toute une enquête pour trouver les matériaux par moi-même. Donc, je suis allé dans tous les magasins. Je leur ai dit, je veux construire un bateau. J'ai besoin d'un... Je savais quel type de bois il me fallait. C'est un bois spécifique. Je leur demandais. Et du coup, les gens étaient très étonnés. Ils essayaient de m'aider, mais c'était un peu compliqué à trouver. Et du coup, en fait, là maintenant, j'ai rencontré des scouts marins en Slovaquie.
Des scouts marins ?
Des scouts marins. Les scouts, comme les Boy Scouts.
Ah, ok.
C'est les gens qui ont des foulards autour du cou qui vont dans la forêt et qui font des feux.
Oui, je connais.
Globalement, on connaît ça comme ça. Et en fait, il y a plein de types de scouts différents, et notamment des scouts marins. Et étonnamment, en Slovaquie, il y a plein de scouts marins. Donc, il y a 8 groupes scouts marins différents en Slovaquie. Et ils construisent des petits bateaux. Et du coup, je les ai rencontrés. Et du coup, eux, ils m'aident beaucoup. Et aussi pour la fourniture, pour trouver le bois, pour la technique. Mm-hmm. Eux, ils ont déjà fait. Donc, ils savent qui peut fournir. Donc, ils m'aident beaucoup. Et même pour parler aussi, parce que c'est les gens, quand tu parles qu'anglais, je pense qu'ils ont envie d'être assurés que t'es une vraie personne. Donc, du coup, souvent, je leur passe mes amis scouts qui m'aident beaucoup là-dessus.
Et tu espères terminer ton projet à quelle date ?
Moi, j'aimerais bien avoir fini. Alors, le bateau, j'aimerais bien l'avoir fini pour cet été. Donc, j'aimerais bien pour juin. Donc, ça me laisse 2 à 3 mois. Mmh. Et après, il n'y a pas de date de fin. L'idée, c'est de continuer le long du Danube et puis de visiter un peu toutes les villes, d'aller à la découverte.
Juste la question par rapport à ton bateau. Comment imaginer ce bateau ? Ça sera quel... Je ne sais pas comment... Je ne comprends pas, je ne maîtrise pas les bateaux, mais moi, comment l'imaginer si c'est, je ne sais pas, pour une personne, la petite, ou si c'est comme Titanic ou...
Non, c'est un petit bateau. Il va faire 4,7 mètres de long.
4,7 mètres
de long, c'est une voiture, en fait. C'est la longueur d'une voiture, à peu près, pour 1,20 m de large. Mmh. Et il y a une petite voile, quand même, dessus. Mmh. Donc, il faut imaginer une espèce de grosse barque avec une voile. Globalement, c'est ça. Et je pense que pour être confort, il faut être 2, pas trop plus. Je pense qu'on peut être 3 dessus, mais ça devient compliqué. Mmh.
Et tu as navigué déjà des bateaux ou tu sais naviguer bateau ?
Non, je sais absolument. je sais pas du tout naviguer. J'ai jamais fait le scout quand il a commencé à m'aider pour la construction à la fin. Il me fait ah mais tu sais quand même naviguer ? Non, pas du tout. Donc l'idée là, c'est pendant la construction, essayer de prendre quelques cours quand même pour en savoir un peu. Faut que je me renseigne parce que il y a l'air d'avoir du courant sur le Danube. Donc voilà, non, je sais pas du tout. Donc.
Est-ce que tu as besoin d'avoir, je ne sais pas, le permis de conduire le bateau sur Danube ou ce n'est pas le cas ?
Non, en fait, tu as des tailles. Et alors, déjà, tu as une différence entre les bateaux si tu as un moteur ou si tu n'as pas de moteur. Moi, je n'ai pas de moteur. Donc, quand tu as un moteur, à partir d'une certaine taille de moteur, il te faut un permis. Pour les voiliers, je ne sais pas si tu as un permis voilier. En tout cas, ma taille, non. Et pour naviguer sur le Danube, tu as besoin d'une autorisation à partir d'une certaine, taille. Mmh. Donc, a priori, moi, je n'ai pas besoin. Mais je pense que même la législation, ça a été un travail pour moi. Il faut que je me renseigne beaucoup, surtout qu'on traverse plusieurs pays.
Oui.
Du coup, c'est aussi l'un de mes travails. Mais non, a priori, il n'y a pas besoin d'autorisation quand c'est un petit bateau.
Et quelle était la réaction de ta famille, tes amis, que tu as dit que oui, je suis allée en Slovaquie pour construire le bateau ?
Je pense que mes parents, je crois qu'ils commencent à capter que je tente des trucs bizarres. Du coup, ils font bon, je pense que dans leur tête, ils doivent se dire bon, vas-y, on laisse faire, on verra bien. Donc je pense qu'ils sont habitués à cette chose-là. Mes amis, mais globalement, on m'a beaucoup dit ouais, que soit on n'y croyait pas, soit que ouais, c'était pas faisable ou pas, oui, que ça avait pas trop de sens et que c'était pas faisable. Mais moi aussi, j'y croyais moyennement en réalité. Mais en fait, je crois que j'y croyais pas. Je sais pas si j'y crois encore, en fait. Mais vu qu'en fait, je suis parti, que j'ai dit à tout le monde, oui, je cherche des gens pour construire un bateau, là, finalement, je suis avec des gens et ils m'aident, donc ça avance. Mais c'est vrai que je savais pas si c'était faisable.
Et tu as dit que tes parents sont un petit peu habitués de la situation bizarre avec toi. Est-ce que tu peux nous raconter d'autres histoires comme ça, peut-être ?
Oui, parce que j'avais déjà fait un voyage en France. Et j'étais parti avec un ami, on était parti sans argent et sans affaires. Et on a voyagé pendant 2 mois comme ça. Donc du coup, là, ils se demandaient vraiment ce que je foutais. Et puis quand je suis revenu, ils ont fait « Ah, mais finalement, ils ont vu que j'avais rencontré plein de gens, que j'avais vécu plein d'histoires, etc. » Un voyage assez incroyable. Et du coup, ils ont fait « Ah, finalement, c'est intéressant. » Donc voilà, c'est bon ça.
Tu as fait la question, Elena ?
Oui, moi, je m'intéresse. Quel pays tu aimerais visiter par ton bateau ?
Eh bien, j'aimerais suivre le Danube. Donc, il y a le prochain pays après la Slovaquie, ça va être la Hongrie. Après, il y a la Serbie. Je crois que je longe un peu la Croatie aussi. Et après, la Roumanie. J'aimerais bien voir la Roumanie. Ça, j'aimerais beaucoup visiter la Roumanie. Et j'aimerais bien finir par la Turquie, Istanbul.
Qu'est-ce que tu vas faire à Turquie? Tu veux rester un peu là-bas ou...
Ouais, j'aimerais bien... dans le voyage, ça, c'est un truc, t'es tout le temps en train d'osciller entre passer de vide de pays, de ville en ville et rencontrer les gens. Je me rends compte que rester deux mois à un endroit, c'est important pour vraiment rencontrer les gens. Sinon, c'est dur, je trouve, de rencontrer un pays, rencontrer des gens, faire des activités. Si t'es là rapidement, t'as pas le temps de faire des activités. Du coup, oui, en Turquie, j'aimerais bien rester quelques mois pour rencontrer les gens et habiter un petit peu.
Mm-hmm. Pour toi, ça serait la première fois de visiter la Turquie?
Oui.
Et quand tu as dit que tu voudrais rencontrer des gens, ça veut dire que tu vas faire quoi pour faire ça?
Alors, je sais pas, je vais essayer de parler aux gens déjà. Le stop, je sais pas si je serai en stop, parce que je serai en bateau. Mais oui, je sais pas encore. Mais l'idée, c'est d'habiter, peut-être essayer de parler aux gens, de voir si moi je fais des activités, des sports. Avec ces sports, j'arrive à rencontrer des gens. Voilà.
Ok, super. Je pense qu'on peut. Wow.
Est-ce
que vous voyez, wow. Il pleut quand...
Ça sera audible dans notre émission. J'avais juste une question. Est-ce que tu as déjà le plan? Est-ce que tu as déjà réfléchi? Qu'est-ce que tu vas faire après Turquie? Est-ce que tu as d'autres projets que tu vas commencer?
J'ai des idées. Et en fait, je crois que je commence à vraiment avoir que des idées un peu folles dans ma tête que je ne sais jamais si c'est réalisable. Et je crois que j'aime bien ça. Du coup, je vais peut-être continuer comme ça. Mais j'ai deux idées qui ne sont peut-être pas inconciliables. Mais en ce moment, je me dis que j'aimerais bien faire quelque chose qui soit bon pour la planète, ce genre de choses. Et je pensais peut-être aller voir des gens qui font de la reforestation, ce genre de choses. Mm-hmm. Et peut-être essayer de travailler là-dedans. Et une autre de mes envies, ça serait aussi de faire un espèce d'écolieu pour des jeunes. Donc faire peut-être un peu de maraîchage en écolieu avec
Qu'est-ce que c'est maraîchage? Parce que je comprends.
Maraîchage, c'est planter des légumes, des fruits.
D'accord.
J'aimerais bien faire un écolieu autour un peu de planter des choses, être un peu plus. À cultiver un peu et puis faire des événements avec des jeunes. Donc j'ai un mix de ces idées-là et je pense que je vais essayer de faire un petit mix avec toutes ces idées-là.
Et tu veux le faire en France ou quelque part ailleurs?
Je sais pas, peut-être la reforestation en Afrique, je sais pas.
Ah oui, ça
c'est. Mais je connais pas, mais encore une fois, je m'embarque dans un truc, je sais pas de quoi je parle. Mais oui, c'est quelque chose qui me tente, donc je sais pas, pourquoi pas aller dans un pays un peu qui a des zones désertiques pour essayer vraiment, ça serait un peu un rêve. D'arriver à reforester un endroit un peu désertique. Pourquoi pas?
C'est un très joli projet. Je pense maintenant on peut faire la courte pause musicale après laquelle on va aborder un peu l'autostop et comment tu voyages, parce que c'est très intéressant ton approche sur voyager. Alors, on va écouter la chanson que tu aimes. C'est ça, c'est ton préféré slovaque ou quelle attitude ou relation tu as avec cette chanson?
Quand je suis arrivé en Slovaquie, j'ai voulu un peu écouter des chansons slovaques et j'ai voulu aussi apprendre le slovaque via les chansons, donc je me suis mis à tout traduire aussi. Mais j'ai un peu abandonné ça. Mais du coup, j'ai quelques musiques slovaques dans la playlist. J'ai du rap et des chansons folkloriques. Et il y a, oui, cette chanson folklorique. C'est des chansons, je ne sais pas si on peut dire que c'est folklorique. Mais en tout cas, c'est très beau.
C'est folklorique, c'est très folklorique.
Ça paraît folklorique en tout cas.
Tu sais prononcer le nom de cette chanson ou pas?
Pas du tout. C'est enregistré dans mon téléphone et je suis incapable de prononcer.
Je vais parce que j'ai... Ah oui, j'ai trouvé. Ça s'appelle Hey... Moi non plus, parce que c'est la langue slovaque, en plus ce dialecte, mais c'est Divočki z Rakovca. Alors, je vous souhaite plaisante écoute. Alors, c'est ça, tu as aimé, Elena?
Oui, beaucoup. Je pense que je suis devenue l'experte de la musique folklore slovaque.
C'est très joli. Est-ce que tu as vécu, Arnaud, déjà quelque chose comme fête folklorique en Slovaquie? Je ne sais pas s'ils font ça, mais en Tchéquie, on fait parfois des fêtes traditionnelles folkloriques. Est-ce que tu as participé à quelque chose comme ça?
Eh bien, oui, effectivement. À un moment donné, en stop, c'est bien le stop, ça, pour rencontrer plein de gens. Et à un moment donné, je me suis retrouvé à suivre des gens qui me disent, là, on va à une fête parce que mes enfants, ils font de la danse folklorique. Ils m'ont fait, viens. Je me suis retrouvé à une espèce de soirée où les gens faisaient de la musique traditionnelle et où il y avait des danses. Du coup, oui, j'ai vécu ça. J'étais avec des parents, des enfants. Et il y avait des danses et des instruments de folklorique.
C'était
cool.
Donc,
ils font ça. J'ai l'impression, oui, qu'il y a... Oui, c'est assez fort là-bas. Qu'il y a beaucoup de gens s'intéressent à
ça. Et la Slovaquie, c'est plus traditionnel que Tchéquie. Même la dernière invitée a dit qu'ils sont déjà... Ils sont encore plus traditionnels, oui. Mais c'est cool qu'il y a des traditions. Et du coup, je devrais demander ça d'abord, mais tu es français 100%, tu n'es pas d'autres, je ne sais pas, des ancestors, des pays est ou
mais
quelque chose.
Non, pas du tout. A priori, non. Je connais pas toute ma descendance, mais jusqu'à loin, ils sont tous restés en France. Donc, oui. Donc, je suis très français.
Est-ce qu'il y a en France aussi des traditions comme ça, quelque chose de folklorique ou des costumes nationaux dans ton... Tu viens de Orléans, c'est ça?
Non, j'ai habité un peu Orléans, mais j'ai un peu bougé. Moi, je suis de région parisienne, une ville qui s'appelle Dourdan. Mmh. Et dans ma ville, moi, il y a un château fort, donc tous les ans, tu as une fête médiévale. Mmh. Donc oui, tu as des... je sais pas si ça, on peut appeler ça du traditionnel, je pense que oui. C'est une fête médiévale où tu peux boire, manger des choses médiévales. Une fois, j'ai peint un vitraux là-bas, tu as plein de petits ateliers, tu peux porter une armure et une épée si tu veux.
C'est cool. Maintenant, je pense qu'on peut parcourir à tes voyages, tes expériences avec voyager. Alors, on peut commencer par dire à quel âge tu as commencé à voyager, ou si c'était toujours, comment c'était dans ta famille, si tes parents ont voyagé beaucoup, parce que parfois, il faut avoir l'impulse extérieur de voyager. Comment tu as commencé?
Peut-être qu'il y a eu une impulse. Mon père a beaucoup voyagé avec son travail. Donc, il allait beaucoup en Colombie, en Chine quand j'étais petit. Alors, c'était un voyage différent parce que lui, c'était aussi pour travailler. Moi, je vais essayer de chercher des trucs peut-être un peu plus soit en lien avec la nature ou aller chez les gens. Mais peut-être que ouais, peut-être que ça a influencé, je ne sais pas. Et j'ai commencé à voyager, ou en tout cas, ce que je pense, c'est un peu mon style de voyage, où j'ai vraiment essayé de rencontrer les gens, à 16 ans, où avec des amis, on a décidé d'aller faire le GR20. Donc c'est une grande randonnée assez connue qui traverse toute la Corse.
Mmh.
Et du coup, je suis allé en autostop jusqu'à Nice. Et puis après, on a fait le GR20 et on est rentré. Et j'avais 16 ans. Et c'est de là que j'ai commencé à faire des voyages comme ça.
Et comme Antoine de Saint-Exupéry écrit, tous les adultes adorent des chiffres, et moi aussi. Est-ce que tu as de combien de pays tu as déjà visité?
Mais je sais pas, mais en Europe pas mal je pense, parce que j'ai aussi eu l'occasion de voyager un peu avec mes parents, et après je suis allé une fois aux États-Unis. Mais en
qu'est-ce
Europe,
que tu as fait là-bas?
Qu'est-ce que j'ai fait là-bas? J'étais dans une là je pense que je devais avoir 15 ans, et puis je suis allé dans une famille américaine, et puis je suis resté 3 semaines avec eux, et puis j'ai vécu avec eux. C'est un échange en fait.
Échange scolaire?
Pas scolaire, parce que ça s'est pas fait via l'école, mais c'est via les connaissances de mes parents, vu que mon père voyage un peu.
Mm-hmm.
Et donc, c'est, non, c'est juste de familles qui se connaissent, qui ont échangé les enfants. Donc, c'est pas scolaire.
Et quand tu as fait ton première expérience avec autostop, parce que tu as beaucoup fois de mentionner de ça, comme moyen de voyager pour toi. Comment tu as commencé de faire ça?
Je sais pas trop. Je crois qu'il y a eu un moment donné où il y a eu une espèce de... j'aurais du mal à dire. Après, je sais que là où j'habitais, des fois, de temps en temps, les gens faisaient du stop d'une ville à l'autre. Parce qu'il y a plusieurs petites villes qui sont pas loin l'une de l'autre, et t'as toujours un ami qui est dans la ville d'à côté, qui fait une soirée ou quoi, et du coup on est beaucoup à des fois aller d'une ville à l'autre en stop, donc peut-être que ça a influencé, et je sais pas, peut-être que j'ai dû entendre des histoires de gens qui faisaient le tour du monde en stop, ce genre de choses, et je pense que ça m'a pris, et du coup je m'y suis intéressé.
Et tu as essayé des autostops, je pense, dans plein de pays. Est-ce que tu vois des différences, par exemple, entre certains pays, s'il y a des pays où c'est plus habituel, ou comment c'est en France, parce que je ne sais pas imaginer de faire autostop ici. Est-ce que tu as parfois la peur de faire autostop, ou est-ce qu'il y avait déjà la situation qui est arrivée où tu n'étais pas senti secure pendant autostop? Si tu avais quelqu'un bizarre qui a s'arrêté?
Quand j'ai vraiment commencé, il y a une fois où je me suis senti mal à l'aise vraiment avec une personne, et je le sentais pas. Mais sinon, j'ai fait des rencontres incroyables. Mais oui, peut-être que... souvent, on parle souvent de la peur, est-ce qu'il va t'arriver quelque chose? J'ai pas du tout peur, j'ai pas plus peur en stop que marcher dans la rue et rencontrer quelqu'un de pas bien. J'imagine que le ratio, c'est à peu près le même. Après, c'est sûr qu'il y a le. Oula, pardon.
C'est bon.
Que c'est sûr que t'es en proximité avec les personnes. Donc, si tu sens, faut accepter son. Je pense qu'il faut accepter son jugement aussi. Si tu sens pas une personne de pas monter et c'est un peu bizarre parce que moi je me souviens qu'au début, tu rencontres quelqu'un, c'est très rapide, donc t'échanges 2-3 mots. Et si tu le sens pas, moi j'ai ce truc derrière la tête de attention, faut pas juger les gens et tout. Sauf que là, en stop, t'as rien en fait pour décider de si tu vas rester dans un endroit clos avec une personne. Du coup, un peu accepter de je le sens pas, vas-y, je suis mon instinct. Mais c'est très rarement arrivé. Ça m'est arrivé une fois, mais j'ai fait beaucoup de stop. Et sur des grands voyages aussi. Donc c'est longtemps, peut-être de nuit. Donc voilà. Mais voilà, ça m'est arrivé qu'une fois.
Tu peux décrire ton expérience, c'était une fois, ou tu préfères, non? C'était qu'est-ce que la personne a fait pour ne faire pas le bon... comment le dire ? Et qu'est-ce que c'était avec cette personne ?
Non, alors en fait, le stop avec la personne, c'est très bien passé. Mais c'est juste qu'après, je suis allé chez cette personne parce que des fois, on m'héberge, on m'invite à manger, ce genre de choses. Et là, je suis allé chez cette personne pour dormir. Et en fait, il était un peu déplacé dans ce qu'il disait. Donc, peut-être qu'il avait des intentions un peu mauvaises, un peu intéressées. Et j'ai fini par partir.
Par quoi, à part ?
Par partir, en fait.
Partir, oui.
Au bout d'un moment, je lui ai dit, mais je suis gêné, je trouve ça étrange ce que tu dis. Et puis, on s'est regardé, puis je suis parti. Donc, ça, c'est bon.
C'était à quel pays ?
C'était en France.
France, ah oui. Oui, est-ce que c'est habituel que, si déjà, tu as dit que dans ton ville, des gens... font autostop parfois. Est-ce que dans d'autres régions de France, par exemple maintenant tu es à Mulhouse, est-ce que c'est facile ici d'avoir quelqu'un qui s'arrête et t'amène dans sa voiture?
Oui, non. En France, ça marche partout. Ça paraît, c'est très très, finalement c'est très très naturel dès que tu es sur des routes, des nationales. Les gens comprennent tout de suite que bah, t'es quelqu'un qui va dans la ville d'à côté et c'est assez naturel. Quand t'es sur les autoroutes, les gens se questionnent un peu plus parce que ça veut dire que tu vas faire des grands trajets, donc tu pars loin. Donc les gens, ça marche aussi. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus, de moins naturel. Mais oui, vraiment, de ville en ville, c'est très naturel. Et après, tu es pris par des gens qui ont envie de te prendre. Donc, ils sont aussi ils sont dans le même état d'esprit. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a tout. Il y a des gens, quand tu fais du stop, tu les vois derrière leur pare-brise, qui sont offusqués. Et juste après, tu as une personne pour qui c'est complètement naturel et qui ne se pose aucune question. Donc, si ça marche.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un pays où ça ne marche pas du tout ? Est-ce que tu avais le pays comme ça ?
Récemment, j'en ai fait en Suisse et on a eu plus de mal.
Mm-hmm.
Mais après, c'est une journée, donc je ne peux pas trop dire. Il y a des légendes, il y en a beaucoup qui disent que les pires pays au monde, c'est l'Italie, l'Espagne pour le stop. J'ai beaucoup entendu ça. Je n'ai pas essayé en Italie ni en Espagne de faire du stop. Mais j'ai souvent entendu ça, il y a une espèce de légende là-dessus. En Suisse, j'ai eu un peu de mal à faire du stop.
Et pourquoi, quand tu penses, quelle est la raison pourquoi ça ne marche pas en Suisse, le stop ?
Je sais pas. Peut-être que les gens sont plus...
riches.
Peut-être plus riche. J'ai pensé aussi, je me suis dit peut-être qu'ils... Ils sont riches, du coup ils sont méchants avec tout leur argent et leur grosse voiture. Non, mais peut-être que si, il y a quelque chose comme ça, je sais pas, j'imagine pas forcément. Peut-être qu'ils vont au boulot, peut-être qu'ils sont... Oui, moi ce que je me dis, c'est si t'as des carrières et que t'es plus là-dessus, tu vas au boulot, puis tu rentres chez toi et tu t'as pas, peut-être moins de place pour... rencontrer les gens. Moi, c'est l'explication que je me donne, mais j'en sais rien. Après, j'ai été pris aussi en stop par des belles voitures partout, donc je ne sais pas si...
Au moins quelque chose.
Et par contre, quand tu conduis la voiture, tu toujours acceptes des gens qui font des autostops ?
Eh bien, en fait, j'ai rarement pris un autostop. En voiture, ça m'est arrivé, je crois que ça m'est arrivé qu'une fois, en fait, de prendre des gens en autostop. Mais du coup, oui, quand je vois des gens qui sont sur le bord de la route, dans ma tête, c'est obligé que je m'arrête. J'ai pas le choix, je dois rendre l'appareil, en fait, parce que bon, on m'a tellement pris que j'ai même pas le droit de dire non. Du coup, oui, quand je vois quelqu'un sur le bord de la route, mais ça m'arrive pas souvent. Mais oui, je m'arrête et je prends.
Et quelle était la plus grande distance que tu as fait en autostop ? Est-ce que tu as le record personnel ?
Ah, eh bien, je pense que c'est aller en Slovaquie. Ah mais c'est ah non je pense que mon record en fait c'est en France parce que j'ai pendant 2 mois j'ai voyagé en France mais j'ai fait une espèce de grosse boucle du coup j'ai vraiment fait un gros tour de France en stop du coup je pense que
avec
c'est...
Mais j'ai pensé avec une seule voiture la plus longue distance que tu as fait.
Une seule voiture mais je pense que ça doit être entre Paris et le sud, Nice ou Toulouse, wow. Je ne sais plus. Mais je me souviens d'une personne qui faisait du crossfit, qui faisait beaucoup de sport, qui m'a pris. Je pense que je suis resté 4-5 heures avec lui.
Ouais, c'est cool. Elena, est-ce que tu fais aussi autostop ou tu as essayé?
Non, je n'ai jamais fait ça. Et par contre, je n'ai pas beaucoup envie de commencer.
Ah, oui. Une peur peut-être.
Oui, un peu, et je sais pas, parce que quand je me sens que je dois, comment dire, non, par contre, je fais une seule fois, mais c'était la situation urgente. Quand je faisais mon stage en France, c'était à la région de Savoie, et j'ai raté la dernière navette pour aller à la place où je travaillais. Et en plus, je n'avais pas d'Internet pour appeler quelqu'un. Et je suis allée à la gare pour demander des gens, blablabla. Bla bla. Mais les gens qui travaillaient là-bas, ils m'ont dit que non, la gare est fermée et tout ça. Et ça veut dire que je n'arrive pas à appeler quelqu'un, que je suis la situation est un petit peu difficile, je peux dire. Donc, et après, je commençais à réfléchir qu'est-ce que je peux faire là-bas. Je demandais à des gens qui sont taxistes, je ne sais pas, taxi, oui, combien ça coûte. Elle m'a dit, oh, bah oui, tu sais, ça devrait peut-être c'est 50 ou peut-être 60 euros. Et moi, je dis, oui, c'était un petit peu. Un petit peu beaucoup. Donc, et après, et bien sûr qu'il pleuvait. Moi, j'étais, je ne sais pas, la très, très petit village pour trouver les places où je peux dormir et tout ça. Donc, et j'ai demandé à la station des bus, tous les gens qui, à mon avis, avaient des permis de conduire. Et en plus, je demandais à une fille qui avait avec d'autres filles. Elle m'a dit, ah, bah oui, oui, je peux te aider. Et en fait, j'ai pris la place de sa copine. Et elle m'a... comment dire? Parce que j'ai habité à la sommet de montagne. Ah, ça veut dire que...
Il est lassé.
Oui, il est comme ça. Il m'a dit, oui, j'ai toujours avait la désir de découvrir cette place. Oui, je peux t'aider. Moi, j'étais vraiment... Je suis foule de cette situation. Et après cette situation, j'ai pris mon nouveau saveur. Parce que je dis toujours à cette fille, tu es mon saveur, saveuse.
Saveur, avoir de la saveur.
Ouais, oui, parce que tu m'as sauvé.
Ah, sauveur.
Oui, oui. Et après, quand j'ai raconté cette situation à mes collègues, mon copain, ils m'ont dit, bah oui, tu sais que BlaBlaCar existe. Ah oui. Tu sais que c'est un petit peu comme ça. Oui, c'était la seule fois et c'était l'expérience positive pour moi, mais c'était à cause de la situation, à cause de...
Oui, t'avais pas le choix du coup.
Oui, oui. C'est tout.
Arnaud, est-ce qu'il y a quelque chose que tu conseillerais aux gens qui veulent faire autostop? Comment, quelle stratégie tu dois faire? Parce que moi aussi, j'ai fait autostop. Nous avons eu le problème. Je le fais en Israël. Nous avons parfois problème parce qu'on a pris des drapeaux tchèques. On a fait des... on a écrit sur le papier notre destination et parfois c'était difficile. Est-ce que tu as des recommandations pour endroit, comment tu dois être habillé? Est-ce que tu déjà as des observations?
Je pense que quand tu fais du stop, tu vas rentrer dans l'intimité de quelqu'un et il va être comme il est. Donc, il peut avoir des opinions complètement opposées aux tiennes. Donc, moi, j'aime bien me dire, d'avoir l'air sympathique, d'être assez neutre dans mon apparence. Et puis après, aussi dans les discours, et quand je vais parler, j'accepte de, vas-y, ben, je rencontre quelqu'un, et il va peut-être être différent, et voilà, j'accepte, on est dans l'écoute. Donc ouais, je pense peut-être être neutre et être un peu propre pour pas faire peur aux gens, et puis être souriant, je pense être souriant, ça marche. Il faut se poster au bon endroit aussi, pour que ça soit une bonne direction, parce que des fois t'es sur la mauvaise route, les gens font le tour, ils te disent tous mais non, mais moi je vais juste à côté là, et du coup faut bien choisir le...
Et c'est meilleur de être, je sais pas, au milieu de ville ou plutôt aller à la fin de, au la bord de ville où il y a déjà la plus grande autoroute.
Ah oui, moi je me sors toujours un peu de la ville quand je fais du stop. Je fais jamais de stop dans la ville parce que y a des intersections partout, donc ils peuvent aller à n'importe quel endroit. Donc ouais, en général je marche jusqu'à un début d'autoroute ou de voie qui est un peu à sens unique. Donc si c'est une grande ville, je vais prendre le métro ou quelque chose qui va m'amener à un endroit où c'est plus facile. Sinon moi je fais pas, je trouve ça trop compliqué. Donc ouais, je me pose vraiment à partir d'un endroit où il y a la route, elle va quasi que dans une direction. Je me pose là pour faire du stop.
Et tu utilises des affiches avec ta destination
Oui, des fois, ouais. Et c'est pas mal. Bah, en fait, pas toujours. En fait, je le fais surtout si j'ai deux directions opposées. Des fois, les entrées d'autoroute, tu as la même entrée d'autoroute et après ça bifurque et ça va complètement à l'opposé. Du coup, bah là, ouais, il faut marquer ton panneau. Mais après, des fois, j'en mets pas. Je me dis, au moins, les gens ils vont s'arrêter. Du coup, je vais leur parler un peu et même s'ils vont pas dans ma direction, ça me met un peu ça me motiver.
Quel est ton motif principal de faire autoroute? C'est économiser d'argent ou il y a quelque chose d'autre?
Non, économiser de l'argent, ça peut, mais après, c'est un investissement humain, faut te mettre sur la route, faut te dire que tu sais pas ce qui va se passer, donc non, moi c'est plus pour rencontrer des gens, et ouais, c'est l'aventure, il y a un truc, tu rencontres quelqu'un, déjà il te rend un service, donc ça te met tout de suite dans une condition de cette personne m'a rendu un service, je vais être sympa avec lui. Et je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Et tu rencontres vite des gens et c'est vraiment un moyen de partager des moments de vie. Il y a des choses folles. Ça m'est arrivé juste que je marche sur la route, qu'il y a des gens qui s'arrêtent sans que j'ai commencé à faire du stop, qui me disent « Ah bah, je vous prends. » bon. Et une fois, il y a un mec qui nous a pris comme ça. J'étais avec un ami et il nous a amené visiter des églises parce qu'il faisait des maquettes d'églises. Et on n'a rien demandé, on ne faisait même pas du stop, on avait juste des sacs à dos. Et il nous a emmenés, il nous a fait visiter des églises et on a passé l'après-midi avec lui. Et ça, il y a plein de choses comme ça qui peuvent arriver. Du coup, voilà, c'est pour ça que je continue.
Et c'est toujours la seule rencontre ou peut-être que tu as fait connaissance avec quelqu'un et vous êtes devenus, je ne sais pas, des amis ou quelque chose comme ça?
J'avoue que je n'ai pas gardé... Il y a quand même... Je ne garde pas énormément de contacts. Alors après, c'est un peu ma personnalité, je pense. Après, il y a des gens avec qui on a passé quand même 2 semaines chez eux, qui avaient un terrain. Ils habitaient dans une caravane et puis on coupait du bois avec eux. Et eux, quand même, on s'est ajoutés sur Facebook. Et puis de temps en temps, je regarde ce qu'ils font, où ils en sont. Mais après, je ne garde pas énormément, mais ça, je pense que c'est plus ma personnalité.
Et quelle était ton plus bonne expérience avec Autostop? Est-ce que tu as quelque chose qui est vraiment top? Soit la personne était super agréable ou c'était la jolie paysage dans la route?
je ne sais pas, peut-être Johnny Holiday a accueilli, t'as accueilli ton aventure, quel, tu as rencontré quelqu'un.
Mais je pense que j'en ai deux en tête, mais l'une des plus marquantes, c'est celle que je viens de dire, où on a rencontré quelqu'un en stop, qui nous a dit qu'il avait un terrain, qu'il habitait dans une caravane. Il n'allait pas dans notre direction, donc du coup, on s'est quitté, mais il nous avait fait un petit dessin sur une feuille de là où il habitait. Et on est revenu une semaine plus tard, et on est resté deux semaines avec lui. Et là, c'était assez incroyable, parce que on était chez lui, on l'aidait à s'occuper de son terrain, il avait un nouveau terrain, du coup on coupait du bois avec lui, et on est allé dans toute la ville pour discuter, et puis on a trouvé un maraîcher, justement, qui parce que je sais pas, on allait voir les gens, on dit on cherche un boulot, quelque chose à faire, et du coup là on a créé une espèce de petite vie tout de suite dans un village où on était sur ce terrain. La journée, on allait faire 2-3 heures chez un maraîcher qui nous donnait des fruits qu'on rapportait sur le terrain, puis on a rencontré les amis de la personne qui avait le terrain, sa famille aussi qui faisait l'équitation. Du coup, j'ai eu l'impression de très rapidement, en deux semaines, de me créer une petite ville sur place, une petite vie sur place. Du coup, c'est des très très bons souvenirs. Et ouais, assez incroyable. Et une autre fois aussi où je me suis retrouvé dans une association où il y avait des services civiques, il y avait des gens du monde entier. Et je me suis retrouvé là un peu par hasard. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Oui, je connais des gens qui rénovent un château. Tu peux aller à tel endroit. » Je suis allé à tel endroit. Finalement, c'était un manoir. Ils ne faisaient pas que le rénover. Et il y avait des gens un peu du monde entier qui venaient en service civique. C'était une association. Et je suis resté une semaine là-bas. Et là aussi, c'était une très bonne expérience.
Et tu as fait service civique ?
J'ai jamais fait de service civique. Ouais, non. Je suis arrivé dans un endroit où il y avait des gens qui faisaient service civique, et j'ai participé une semaine avec eux. Alors, ils avaient une espèce de vie en communauté, et j'ai partagé une semaine avec eux. Mais non, personnellement, je n'ai jamais fait de service civique.
Est-ce que toi, le pays où tu veux... C'est un rêve d'aller faire autostop là-bas?
Un pays?
Il y a le pays de tes rêves pour faire autostop.
Peut-être le plus grand pays du monde, peut-être. Je ne peux pas insister, mais...
Je pense qu'un jour, j'ai toujours voulu aller en Inde un jour, et je pense qu'un jour, j'aimerais bien aller en Inde, visiter, faire du stop.
Mm-hmm. Quel pays, je crois?
En Inde.
Ah, Inde. Ok. Pas mal.
Okay. Oui, c'est une bonne idée. Alors, est-ce que Elena, tu as d'autres questions? Ah oui, j'ai une question parce qu'on n'a pas... Je pense, ça me semble. On n'a pas demandé pourquoi tu es à Mélousse, comment tu es... Parce que Mélousse n'est pas la destination. Alors, je sais que Jean-Luc nous écoute. Alors, il sait, c'est la capitale du monde, mais...
mais du coup, c'est un petit peu...
Mais personne ne sait cette information. Ouais. Alors, comment tu t'es trouvé à Mélousse? Tu as essayé la deuxième fois déjà, la première fois. Tu es arrivé comment ici? C'était, je pense, un peu par hasard.
Alors, en fait, de base, j'étais parti en Slovaquie où je suis resté 5 mois. Et je suis revenu voir ma copine. Quand je suis revenu, on était en stop et puis il y avait Mulhouse en sortie de. On était en Suisse, du coup, quand on sortait de la Suisse, c'était le plus proche. Et puis elle connaissait du coup Jean-Luc. Et du coup, on s'est retrouvé à aller là. Et puis maintenant, quand je repars pour la Slovaquie, c'est aussi sur la route. Et du coup, je connais Jean-Luc et du coup, je suis passé.
Et voilà comment c'est important de faire des connaissances. Comme ça, vous pouvez arriver à Mulhouse, la capitale du monde.
Mais très belle ville, Mulhouse, moi j'aime beaucoup.
Et tu aimes, oui, c'est bon, c'est bon.
Ouais, oui.
Merci beaucoup que tu es venu chez nous, donner un interview, c'était très, très intéressant.
Oui, merci à vous.
On te souhaite beaucoup de... beaucoup de bonheur avec la construction de ton bateau. Je sais pas comment on souhaite des bonnes choses aux gens, alors j'ai improvisé.
Non, mais ça me va.
Des bonheurs, je sais, c'est bon de dire bonheur.
Eh bien, je pense qu'on me le souhaite pas souvent et je trouve que c'est très beau. D'accord. Donc j'aime beaucoup.
Alors, beaucoup de bonheur avec la construction de ta bateau.
Et beaucoup de bonheur à vous aussi.
Oui, merci.
Bonne continuation.
Et dans tes autres voyages, beaucoup de bonheur d'abord pour aller en Slovaquie.
Et bien, merci.
Je vais avoir le besoin de ça.
Et bien, oui.
Alors, merci que vous avez nous écouté. À bientôt. C'était l'émission de Anna et Elena, aussi Elana, on peut le dire différemment, Elana. À prochaine fois. Tu veux ajouter quelque chose, Elena?
Oui, à bientôt.
À bientôt.